Laurent Septier est artiste et enseignant à la Villa Arson à Nice. Confronté à la réalité chinoise depuis 1986, le voyageur de bonne volonté avide de découvertes qu'est Laurent Septier nous décrit dans Gagner un peu d'immortalité, dans un style alliant humour et simplicité, tout ce qui fait le sel d'un voyage en Chine, avec en prime le recul qui lui permet de constater les profonds changements du pays. Alors Laurent Septier, comment la Chine est-elle entrée dans votre vie pour ne plus en sortir ?
Alors pour ne plus en sortir, ça c'est relativement simple, c'est ce dont je vais parler après. Comment elle est entrée, c'est très très compliqué, mais je peux simplifier avec une entrée qui s'est faite par le biais du passé, de l'actualité du passé en Chine, avec la traduction donc dans la fin des années 80 par Jacques Dars d'un magnifique roman qui s'appelle « Au bord de l'eau », dont la version longue est publiée en Pléiade et une version courte en folio. Et ce roman m'a donné une envie folle, c'est de rencontrer ce monde. Alors le problème, c'est que la diégèse et l'action du roman se passe à la fin de la dynastie Song, sous les Song du Sud, et que moi, quand j'y suis allé, la première fois, c'était en 1986. Alors effectivement, c'est un petit peu différent, beaucoup de choses se sont passées entre-temps, mais ce qui est curieux, c'est que j'ai rencontré dans le vrai monde chinois, j'ai rencontré aussi ma Chine et ma machine fantasmatique qui fonctionne toujours d'une certaine manière. C'est même peut-être tout l'objet après de la continuité, de la continuation de mes voyages et de l'envie d'y retourner, c'est le fait que et il y a à la fois une constance incroyable, peut-être même dans ce qu'on appelle, alors c'est un peu vague, mais enfin, la pensée chinoise, la pensée classique, et la contemporanéité. Il y a à la fois des contradictions, mais quand même beaucoup de développement qui continue et dans lequel, enfin, moi j'y trouve une richesse extraordinaire.
Ah oui, on sent dans votre livre que vous y trouvez un vrai bonheur, même si ça ne ressemble plus à la Chine des Song. Et puis je signale d'ailleurs que le roman Bord de l'eau est paru maintenant en bande dessinée aussi, donc j'ai oublié le nom de l'auteur. Alors, est-ce que votre jeunesse fut sensible aux sirènes maoïstes ?
Oh oui. Oh combien, mais d'une manière qui reste, bon, comme vous voyez maintenant, c'est pour moi-même un sujet d'hilarité, mais c'est tombé curieusement. J'avais 15 ans en 1968, et de surcroît, mon père était policier. J'habitais dans la banlieue parisienne et donc nous entendions en mai 68, j'étais en troisième, nous entendions les manifestants et nous étions dans une petite classe de collège. J'étais très inquiet de tout ce qui se passait et à l'époque j'entendais parler de choses dont j'ignorais tout. C'est ainsi que j'ai découvert la figure de Jean-Paul Sartre, qui était quand même connu pour d'autres choses, qui avait pris la direction de la cause du peuple. Et la grande image que j'avais de la Chine à l'époque, c'était pas au bord de l'eau, c'était un portrait de Mao Tse-tung et de tas de gens habillés tous pareils, en vert ou en bleu. Et j'avoue que comme image de l'exotisme, même si c'est rétrospectivement extrêmement violent, c'est quelque chose qui m'a marqué à vie. D'ailleurs, ce que ne voient pas les auditeurs, c'est que j'arbore toujours un badge de Mao Tse-tung qui est non pas témoin de l'amour que je porterai au président Mao, mais à son image. Ce qui peut se comprendre avec ce que je viens de dire, je pense.
Tout à fait, votre maoïsme est fort peu politique, finalement.
À l'époque, pas du tout.
Et d'ailleurs, pour en revenir au badge de Mao, vous les collectionnez aujourd'hui ?
Tout à fait, tout à fait. Et je les collectionne en fait parce que je me suis aperçu que les Chinois eux-mêmes les collectionnaient. Je le dis à l'occasion d'un des petits épisodes que j'ai écrit dans Gagner un peu d'immortalité. Si je n'avais pas vu des Chinois en collectionneur, j'aurais arrêté pensant que j'étais complètement fou. Mais je pense qu'il y a un rapport à l'image et à cette image, probablement différent pour les Chinois que pour moi, qui est quand même très imprégné dans cette société.
Mais comment vous expliquez cette Mao-mania, outre le rapport à l'image ?
Alors moi j'avoue que je n'ai pas énormément d'explications. Il y en aurait une qui est peut-être fantaisiste, mais je ne crois pas. C'est qu'il y a une quinzaine d'années, alors qu'on démaoïsait quand même pas mal, il s'est produit, je crois que c'était du côté de Canton, je ne suis pas sûr, un accident de circulation assez épouvantable qui impliquait un autobus, des voitures, des piétons, enfin, bon, etc. Il y a eu quelques morts et le seul rescapé des véhicules qui sont imbriqués les uns dans les autres avait suspendu à son rétroviseur un portrait du président Mao. Donc immédiatement, évidemment, les usines qui fabriquaient ce type de colis fichés ont ressuscité, si je puis dire, l'image du président Mao. Alors, est-ce que c'est une boutade? Est-ce que c'est une fausse? Je ne sais pas, mais j'adhère assez à ce... Voilà, à ça. Et cela dit, quand je pense à la place Tiananmen, sans prendre en considération toutes les choses politiques autour, c'est vrai que si on enlève le portrait du président Mao, j'exagère un petit peu, mais enfin, c'est quand même comme si on enlevait la tour Eiffel du Champ de Mars. J'exagère un peu.
Oui, tout de même. Je pense que quelques Chinois qui seraient peut-être pas d'accord avec vous, mais et puis l'évolution de l'histoire fera que peut-être un jour, ce portrait ne sera plus là et peut-être remplacé par d'autres. Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de replonger dans vos notes pour écrire ce livre et d'écrire ce livre donc ?
Et je dois dire que dans tous ces voyages, j'ai beaucoup plus pratiqué mon médium de base, qui est la photographie. Et j'ai beaucoup photographié avec une évolution, bien sûr, sur ces 27 ans. Une évolution qui est passée de la photographie argentique, noir et blanc, un peu contemplative, à une photographie actuellement numérique et plus fluorescente, plus immédiatement agréable, mais que j'ai été très très frustré par certains aspects de la photographie qui ne peut pas témoigner, par exemple, directement de relations humaines, en particulier des choses qui impliquent des erreurs de communication, par exemple, des choses drôles qui sont très difficiles à, entre guillemets, dire avec la photographie. Et il est arrivé une année où, étant parti pour une première fois tout seul, puisque tous ces voyages avaient été faits en compagnie de mon épouse, j'envoyais tous les jours des emails à mon épouse, donc Annie.
Annie Lazarus, qui a écrit, voilà, avec vous un précédent livre.
Tout à fait, qui est Art contemporain, Pékin en 11 parcours, un livre, voilà, sur l'art contemporain en Chine et plus particulièrement à Pékin. Et les emails que je lui envoyais étaient très très détaillés, parce qu'en fait, ça me permettait moi-même de me remémorer ma journée. Donc je me suis mis finalement à tenir curieusement un journal, ce que je n'avais jamais fait, par email, et c'était tellement, du point de vue du récepteur, d'Annie, tellement vivant, qu'elle m'a incité à les transformer, je dirais, en livre, quelque chose.
À les écrire.
Les écrire. Mais en fait, ils étaient quasiment tout écrits. Comme un instantané photographique, en fait, mais avec cet autre aspect, justement, de l'instantané photographique qui n'était pas dans la photographie.
Un mot d'explication sur ce titre énigmatique à la chinoise, Gagner un peu d'immortalité.
Alors, c'est un petit peu en rapport avec des choses voisines d'une numérologie, c'est voisin aussi de pratiques divinatoires, et d'un aspect du taoïsme qui est un peu le plus bête, qui est la recherche de l'immortalité. Parce que le taoïsme, c'est quand même une philosophie au départ d'une très grande pureté conceptuelle et qui est devenue la religion la plus, non pas ridicule, je serais mal placé de dire, bon, mais une religion encombrée de dieux et de recherche d'immortalité. Et parmi les choses qui permettent d'accéder à l'immortalité, il y a l'ascension des montagnes sacrées, et en particulier du Taishan, qu'on retrouve chez le président Mao quand il parle de morts qui ont plus de poids que le mont Taishan. Et on s'était dit, ce Taishan, il faut qu'on y aille. Donc si on le monte une fois, si on grimpe à son sommet une fois, on gagne déjà pas mal. Et paraît-il que si on le monte 99 fois, on devient immortel. Alors le problème, c'est que je l'ai fait une fois, non sans mal,
Oui, ça avait l'air très fatigant, d'après ce que vous dites.
C'est extrêmement... c'est terrible. Surtout quand on se trouve doublé en pleine ascension par des petites dames toutes maigrichonnes qui ont leur baluchon sur le dos et surtout qui ont 80 ans et qui, hop, vous doublent comme ça en... Kévalent.
Oui, parce qu'il faut préciser qu'en Chine, ce n'est pas une randonnée pour grimper une montagne, mais on monte des escaliers.
Voilà, ça c'est une conception de la nature à laquelle j'adhère à 100% parce que je trouve ça tout à fait extraordinaire. Quand j'explique aux gens, à mes amis, que cette année je vais sûrement faire l'ascension de, par exemple, de, je sais pas, Huangshan, enfin, tout le monde dit « Ah, mais c'est bien, tu fais du sport, tu te ressources pendant tes vacances. » Oui, hein. Ils ne savent évidemment pas qu'on va au pied du téléphérique en taxi, ou en bus, et que après, effectivement, c'est un peu plus fatigant, on utilise les escaliers.
Oui, mais il faut quand même monter les escaliers, ce qui n'est pas donné à tout le monde.
Alors ça, effectivement, non seulement il faut les monter, mais il faut les descendre pour les remonter. C'est un côté un peu shadok, si je puis dire. Mais voilà, justement, ça rejoint à la fois les idées de contradiction du président Mao, j'allais dire mieux descendre pour mieux remonter, et puis ça finit par par être témoin d'une certaine relativité des choses qui font qu'au bout du compte, on n'a rien fait, on s'est fatigué pour rien, mais on a gagné un peu d'immortalité, peut-être. Alors je dis un peu d'immortalité parce qu'il faut rester modeste. Je sais bien que l'immortalité, c'est comme l'infini. C'est tout ou rien.
Mais si vous l'avez fait une fois, il vous en reste donc 98 fois pour atteindre l'immortalité. Alors vous citez en exergue dans votre livre une phrase de l'écrivain Lu Xun. Accorder une attention soutenue aux choses les plus diverses, observer davantage et ne pas écrire si l'on n'a pas vu grand-chose. Alors j'en conclus donc que puisque vous avez écrit, vous avez vu beaucoup de choses.
Voilà, tout à fait. J'ai vu beaucoup de choses, pratiquement sans les voir. C'est-à-dire que cette attention rejoindrait une autre idée qui est l'attention flottante des surréalistes. C'est-à-dire ces promenades où on... Et pour le coup, ça rejoint peut-être un peu certaines choses taoïstes. On se promène sans rien voir, mais c'est pas sans rien voir, c'est sans chercher à voir quelque chose. Je pense qu'il ne faut pas chercher, il faut laisser les choses venir.
C'est comme dans la vie.
C'est comme dans la vie, mais c'est vrai que c'est une conception, je trouve, globalement très chinoise, qui est beaucoup moins volontariste que la pensée occidentale. Et je trouve qu'on en tire effectivement beaucoup plus de choses. J'allais dire, la preuve en est en ce qui me concerne. Oui, j'ai failli dire, moins on regarde les choses avec une attention forcée, plus elles viennent vers soi.
Dans votre livre, on joue un peu à saute-mouton entre les lieux et les dates, puisque vous avez opté pour une présentation non chronologique, ce qui finalement, à mon sens, est un peu dommage. Et les lieux ne sont pas toujours précisés d'ailleurs. Alors pourquoi vous avez choisi cette manière d'écrire ?
Alors c'est la même chose que dans mes photographies. Je pense que c'est la vision d'ensemble qui permet au regardeur de situer les choses entre elles et de, j'allais dire, de faire lui-même le travail. Non, pas tout à fait, mais un peu quand même. C'est-à-dire de faire lui-même un travail de construction dans lequel il a sa place. C'est l'idée de la place du spectateur, c'est l'idée aussi, d'une autre manière, développée par des gens comme Umberto Eco dans l'œuvre ouverte, de ne pas tout dire. Et surtout, mon travail n'est pas documentaire. Du moins, il n'est pas documentaire directement.
Mais on le prend un petit peu comme ça quand même. Et c'est donc pour ça qu'à la lecture, on se dit « Ah oui, mais alors là, il est où ?» etc. Alors, effectivement, parfois, on arrive par déduction. Mais c'est vrai que ça rend la lecture peut-être obligatoirement plus attentive. Alors, ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est que bon, tout vous fascine en Chine, mais notamment la nourriture. On a l'impression que vous passez votre temps à manger.
Alors c'est vrai, j'ai de bons prétextes. Au départ, ils étaient peut-être mauvais, mais comme je suis une très grande mauvaise foi, je peux tout justifier. Mais comme actuellement, depuis 3 ans, j'étais victime d'un petit problème médical qui suggérerait, vu ma maigreur, qu'il faut que je mange.
Vous vous lâchez.
J'en profite, voilà. Je me lâche complètement. Je peux manger. cet été à Taïwan avec mon épouse, nous avons commandé à deux un repas pour 6. Mmh. J'ai mangé 5 parts à moi tout seul, en gros, dont un poulet entier. C'est vraiment merveilleux. En plus, je ne prends pas un gramme. Bon, ça, c'est un peu bizarre. Et surtout, ça me permet du coup...
De tout goûter.
Mis à part le plaisir, de tout goûter. Et pour le coup, de tout photographier, puisque grâce à l'appareil numérique, ce que ne me permettait pas le 6-6, je peux photographier de très près ces plats chinois et leur donner une autre vie qui devient voisine de sorte de peinture. C'est assez curieux, on trouve des structures un peu abstraites. Si je vous dis que, des nouilles froides au poulet du Sichuan ressemblent à une peinture de Jackson Pollock, ça peut paraître surprenant, mais c'est vrai.
Ça surprendra en tout cas un Chinois, ça c'est sûr. Comment se déroule un repas dans un restaurant, notamment spécialisé dans le canard? Ça c'est quelque chose.
Alors, là aussi, c'est une question qui, de son apparence simple, est très compliquée, parce que ça dépend de la région, ça dépend du canard.
Enfin, alors, je vous laisse le choix de la région et du canard.
Alors, eh bien, parlons du canard de Pékin, par exemple, qui est un canard, donc... difficile à dire. Si je dis canard laqué, c'est ennuyeux, parce que, surtout pour les Français, ça fait penser à une autre pratique qu'on trouve beaucoup, très répandu en France dans les Chinatown, entre autres, ces canards suspendus qui sont donc badigeonnés et rôtis au four, qui sont plus une spécialité de Canton et de toute la Chine du Sud. Le canard de Pékin, c'est une variante, mais plus, comment je pourrais les qualifier, culinairement sportive. C'est-à-dire qu'il y a une certaine manière de mettre à mort le canard. Il faut surtout pratiquer l'incision la plus petite possible sous l'aile, parce qu'en fait, l'ingrédient principal du canard de Pékin, c'est la peau. La peau qui va être rôtie, le canard est suspendu par le cou, donc verticalement, dans un four chauffé, je crois que c'est du bois de poirier le mieux, mais je ne me souviens plus précisément. Et il est rempli d'eau. Donc il est cuit en quelque sorte à la vapeur ou à l'étouffée à l'intérieur et rôti à l'extérieur. La peau est en plus séparée par ce petit trou. Le cuisinier, avant d'accrocher le canard, souffle pour séparer la peau de la chair. Et en fait, la graisse fond. Donc, en fait, le meilleur du canard, vous jetez le reste. Le reste, c'est pour les pauvres, j'ai failli dire. Enfin, c'est un peu l'idée. Et vous mangez la peau, qui donc est merveilleusement rôtie. Elle était badigeonnée, avec juste un tout petit peu de graisse dessous. C'est absolument une merveille.
Bon, là, du coup, en plus, c'est l'heure du déjeuner. On a tous très, très faim. Et puis, pour faire passer tout ça, on peut prendre du Mao Tai.
On peut prendre du Mao Tai. Alors, de nos jours, ça va être difficile. De plus en plus difficile à cause du prix. Car les autorités chinoises, dans une pseudo-bonne volonté anti-alcoolique, pour se battre contre l'alcoolisme ambiant, a décidé de monter laisser monter librement, enfin librement. Le prix du Mao Tai, donc actuellement, ça se trouve aux alentours de 250 euros la bouteille d'un demi-litre.
Oula, ça a drôlement augmenté depuis que je suis passé en Chine. Effectivement.
Et c'est un alcool excellent, un alcool de blé de sorgho qui titre 53 degrés, qui est...
Oui, ça arrache quand même.
Ça arrache. Mais avec le canard de Pékin, c'est très bien.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, il y a des multitudes d'anecdotes dans votre livre. J'ai remarqué les cours de chinois intensifs. C'était assez sportif, les cours de chinois.
Ah, c'est terrible, les cours de chinois intensifs. On en voulait pour notre argent, on en a eu pour notre argent.
Donc, vous ne recommanderiez pas ça à tout le monde?
C'est-à-dire, si on est capable d'avoir une attention absolument constante, sans défaillance aucune, pendant au moins 4 heures d'affilée le matin de 8h à midi, alors je le conseille de préférence aux fumeurs, parce qu'il y a une pause de 5 minutes entre chaque cours, toutes les heures, et au moins les fumeurs ont un truc à faire, c'est qu'ils vont fumer leur cigarette au moins. Si par contre vous n'avez rien à faire pendant ces 5 minutes, le temps que vous demandiez ce que vous allez faire, peut-être boire un thé, mais il n'a pas le temps de refroidir, c'est trop... Donc en fait, pour résumer les choses, on fait dans ce type de cours intensifs, de stages intensifs, à peu près un mois de cours universitaires par matinée, en gros.
Ah oui, il faut avoir le cerveau bien irrigué, effectivement. Alors, parmi les multitudes d'analyses de la société chinoise sur le mode humoristique, souvent, il y a le marchandage, qui est assez amusant.
Oui, alors au début, je détestais ça, parce qu'en France, on n'a pas trop l'habitude de marchander. Puis j'ai un peu l'habitude que, bon, le prix, c'est le prix. Et en fait, en Chine, sur ce qu'on appelait à l'époque les marchés libres, en 1986, qui étaient souvent difficiles d'accès pour les étrangers, qui se trouvaient un peu reculés dans les lointaines banlieues, c'était vraiment un usage... Tout à fait courant. Le seul problème pour marchander, il y a juste un problème à résoudre à l'avance, c'est en fait de connaître le prix réel de la marchandise que vous allez acheter.
Et ça, c'est le plus difficile.
Si vous connaissez le prix réel, vous n'avez aucun problème pour marchander, puisque comme vous connaissez le prix, de toute façon, le Chinois en face sait très bien que vous connaissez le prix, donc ça devient vraiment un jeu.
Oui, oui, effectivement, mais sinon ça marche pas. Cela dit, les Chinois étant les rois de l'arnaque, comme vous le dites, surtout en ce qui concerne les étrangers, le jeu devient un petit peu plus complexe. Alors il y a des expériences intéressantes, par exemple le foot massage que tout étranger découvre en Chine.
Ah, ça c'est une chose. Enfin, moi j'ai vécu ça comme une chose terrible parce qu'effectivement.
Et moi j'ai adoré.
C'est-à-dire, moi, j'y étais convié à la fin d'un repas bien arrosé comme personnalité, donc le VIP de service, si je puis dire. On lui offre le foot massage. Alors qu'ils appelaient foot massage, j'ai jamais compris pourquoi il y a un i, mais c'est toujours massage. Et ça a été une expérience terrifiante parce qu'ils ont voulu tout faire vraiment très très bien. Donc on s'est retrouvé dans un établissement d'un luxe inouï. Et parmi les choses dont je garde le pire, c'est le meilleur souvenir, c'est cette brave dame qui m'a plongé les pieds dans un bac d'eau absolument bouillante sur lequel flottaient des pauvres pétales de rose, mais qui étaient déjà morts, j'imagine. Comment elle a vu que je me décomposais, que je ne hurlais pas parce que c'était peut-être un peu moins bouillant. Hein. Elle m'a demandé si tout allait bien. J'ai dit oui, tout va bien, ne vous inquiétez pas.
Oui, c'est sûr qu'il faut être prêt à tout quand on va en Chine. En tout cas, il y a énormément de choses à lire dans votre livre à propos de la Chine. Ce qui se passe dans les parcs, les calligraphies éphémères, etc., etc. En tout cas, je vous remercie, Laurent Septier, pour... cet ouvrage. Et pour continuer ce voyage en Chine, une seule solution d'ailleurs, lire Gagner un peu d'immortalité, édité chez Diem Perdidi.